Vous êtes bien sûr Esprit Occitanie. Francis Ricard, bonjour. C'est l'émission La poésie chiche. Cette émission fait suite à la première partie que j'avais consacrée à Rimbaud. J'avais accompagné Rimbaud jusque vers ses 16-17 ans. Et je reprends aujourd'hui pour continuer cette aventure du poème. Et dans une deuxième partie plus tard, on parlera peut-être du poème de l'aventure. Mais bon, pour l'instant, restons dans la poésie de Rimbaud. Je disais la dernière fois qu'au mois de janvier 1871 était arrivé dans le lycée de Rimbaud un nouveau professeur, donc qui s'appelait Georges Isambard, et qui avait fait découvrir à Rimbaud un certain nombre de choses. Mais Rimbaud ne s'est pas contenté des conseils de Georges Isambard. Rimbaud a fait ses propres expériences, et en particulier, on peut penser l'expérience de la drogue. C'est le moment, sûrement, où il découvre l'alcool, qu'il connaissait déjà, et la drogue. L'alcool, c'est le genièvre qu'on boit dans cette région-là, c'est l'alcool de Bédehoux, mais c'est aussi la bière, c'est aussi tous ces alcools-là. La drogue, il le dit parfois, c'est de la contrebande qui vient sûrement à travers la Belgique, qui vient de Hollande, et il évoque souvent la drogue en parlant de Hortense. Hein, c'est un mot caché pour lui, Hortense, et parfois il l'écrit simplement H majuscule, H majuscule. Mais H majuscule, c'est le H, évidemment, et le H, c'est le hashish. Donc on peut penser que c'est le hashish que certains ont pensé que c'était peut-être de l'opium, mais l'opium est difficile à trouver et ne provoque pas les mêmes effets que le hashish. Donc, c'est un bouleversement dans la vie de Rimbaud. On a dit qu'il ne revenait plus à l'école, qu'il faisait des fugues, qu'il traînait un petit peu partout. Et on va avoir ce fameux moment qui est très daté, puisqu'il s'inscrit dans deux lettres qui sont l'une du 13 mai 1871 et l'autre qui reprend à peu près les mêmes termes, qui est du 15 mai. Je vérifie, mais l'une est du... J'ai une hésitation. Du 13 mai et l'autre est du 15 mai. C'est bien ça, oui. La première lettre est adressée à Georges Isambard, donc son professeur, et la deuxième, c'est beaucoup plus complète, mais qui reprend les mêmes termes, est adressée à un ami qui s'appelle Paul Démeny, qui est plus âgé que lui. J'en reparlerai. Dans sa fameuse lettre à Isambard, dans laquelle il précise à son professeur, Rimbaud a 16 ans et demi, il dit « Je vous en supplie, ne soulignez ni du crayon, ni trop de la pensée. » Sous-entendu, ceci n'est pas un devoir scolaire, ce que j'ai à dire n'a rien à voir avec la scolarité. Et il écrit ceci: travailler maintenant, jamais, jamais, je suis en grève. Maintenant, je m'encrapule le plus possible. Pourquoi ? Je veux être poète et je travaille à me rendre voyant. Vous ne comprendrez pas du tout et je ne saurais presque vous expliquer. Il s'agit d'arriver à l'inconnu par le dérèglement de tous les sens. Arriver à l'inconnu par le dérèglement de tous les sens. Les souffrances sont énormes, mais il faut être fort, être né poète, et je me suis reconnu poète. Ce n'est pas du tout ma faute. C'est faux de dire « je pense ». On devrait dire « on me pense ». Pardon du jeu de mots. « Je » est un autre. Voilà, je m'arrête là, mais on a là déjà les célèbres formules de Rimbaud. Les fleurs du mal de Baudelaire, publié 20 ans avant, s'achevait sur ces vers. Baudelaire écrivait « Plonger au fond du gouffre, enfer ou ciel, qu'importe, au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau. » Au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau. Et les fleurs du mal s'achevaient là. Et Baudelaire n'est pas allé au-delà. On peut penser que Rimbaud, lui, il va essayer d'aller au-delà. Au-delà grâce à un dérèglement de tous les sens. D'autres poètes plus tard, je pense à Artaud, je pense à Michaud, tenteront aussi ces expériences limites de la folie contrôlée pour essayer d'arriver encore plus loin à l'inconnu. Dans la lettre à Paul Demeny, qui est beaucoup plus complète, il reprend presque les mêmes termes. Il écrit « Je dis qu'il faut être voyant, se faire voyant. Le poète se fait voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens. Toutes les formes d'amour, de souffrance, de folie, il cherche lui-même, il épuise en lui tous les poisons pour n'en garder que les quintessences. » Et il arrive à l'inconnu. Il arrive à l'inconnu, et quand affolé, il finirait par perdre l'intelligence de ses visions, il les a vues. Qu'il crève dans son bondissement par les choses inouïes et innommables, viendront d'autres horribles travailleurs, ils commenceront par les horizons où l'autre s'est affaissé. Voilà donc deux lettres beaucoup plus longues que ça. Sur ce, inspiré par cette invention, cette illumination, cette découverte d'une nouvelle poésie, Rimbaud écrit le fameux « Bateau ivre ». Le « Bateau ivre », c'est peut-être on peut le voir en deux parties, parce qu'il semblerait que la deuxième partie ait été écrite après. Mais ça, je ne peux pas le confirmer. Le bateau ivre, c'est l'aventure d'un jeune homme, d'un narrateur en tout cas, qui est sur un bateau. Vous savez que la Meuse, qui traverse les Ardennes, est utilisée par des bateleurs, par des péniches, et que ces péniches sont souvent tirées par des chevaux, ou par des hommes, mais surtout par des chevaux, le long de chemins de halage, hein, dont les haleurs sur le chemin de halage. Et Rimbaud va imaginer que ce bateau va se perdre et arriver à la mer. Donc, ce que Rimbaud raconte là, c'est les fameuses visions qu'il nous dit qu'il doit chercher. On n'est plus dans la poésie réaliste, comme on l'avait vu dans ses poèmes quand il était plus jeune, mais on est dans une poésie complètement visionnaire. « Comme je descendais les fleuves impassibles, je ne me sentis plus guidé par les haleurs. Des peaux rouges criards les avaient pris pour cible, les ayant cloués nus aux poteaux de couleur. J'étais insoucieux de tous les équipages, porteurs de blé flamand ou de cotons anglais. Quand, avec mes haleurs, on finit ces tapages, les fleuves m'ont laissé descendre où je voulais. Dans le clapotement furieux des marées, moi, l'autre hiver, plus sourd que les cerveaux d'enfants, je courus, et les péninsules des marées n'ont pas subi tohu-bohu plus triomphant. » Je saute un peu. Il écrit « J'ai vu le soleil bas taché d'horreurs mystiques, illuminant de longs figements violets, pareils à des acteurs de drames très antiques, les flots roulant au loin, leurs frissons de volée. J'ai rêvé la nuit verte aux neiges éblouies. J'ai suivi des mois pleins, pareils aux vacheries hystériques, la houle à l'assaut des récifs. J'ai heurté, savez-vous, d'incroyables Florides. J'ai vu fermenter les marées énormes, nasses ou pourries dans les joncs, tout un léviathan, des écroulements d'eau au milieu des bonasses et les lointains vers les gouffres cataractants. » parfois martyr lassé des pôles et des zones. La mer, dont le sanglot faisait mon roulis doux, montait vers moi, ses fleurs d'ombre aux ventouses, et je restais ainsi qu'une femme à genoux. Or, moi, bateau perdu, sous les cheveux des anses jetés par l'ouragan, dans l'éther des oiseaux, moi, dont les monitors et les voiliers des anses n'auraient pas repêché la carcasse ivre d'eau, libre, fumant, montée de brume violette, moi qui trouais le ciel rougeoyant comme un mur qui porte, confiture exquise au bon poète, des lichens de soleil et des morves d'azur. Je m'arrête là, j'ai sauté quelques vers, mais c'est pour vous montrer toutes ces images, pour vous faire entendre toutes ces images qui sont vraiment des visions provoquées par le fameux dérèglement de tous les sens, et qui vont permettre donc à Rimbaud d'inventer ces images. Voilà, je propose peut-être de faire une petite pause musicale. On va rendre hommage au poète avec l'âme des poètes, Yves Montand.
Après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. La foule les chante un peu distraite en ignorant le nom de l'auteur, sans savoir pour qui battait leur cœur. Parfois on change un mot, une phrase, et quand on est à court d'idées, on fait la 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 la. Longtemps, longtemps, longtemps après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. Leurs chansons courent encore dans les rues. Leur âme légère et leurs chansons qui rendent gais, qui rendent tristes filles et garçons, bourgeois, artistes ou vagabond.
L'âme des poètes, Yves Montand. Rimbaud, armé de cette nouvelle théorie et de ce nouveau poème, Le bateau ivre, écrit une lettre à Verlaine, et Paul Verlaine a 10 ans de plus que lui. Verlaine a 27 ans et il a déjà publié les poèmes saturniens, les fêtes galantes, la bonne chanson, dont c'est un poète consacré à ce moment-là. Et en lui écrivant, Rimbaud cherche un appui à Paris, hein, peut-être pour se faire connaître. Donc autant Banville n'avait pas proposé d'invitation à Rimbaud, autant Verlaine lui répond Venez, chère grande dame, on vous appelle, on vous attend. Et en septembre 1871, donc Rimbaud a 17 ans, et il débarque, c'est le mot, je ne peux pas dire ça autrement, il débarque chez Verlaine. Verlaine, à ce moment-là, il est marié. Il est marié depuis un an avec Mathilde Mottet, qui a 17 ans, dans l'âge de Rimbaud. Elle est enceinte de 8 mois, et le couple est sagement installé chez les parents de Mathilde. Et Verlaine travaille comme fonctionnaire, il est expéditionnaire à l'état civil. Donc tout ça est bien sage, et débarque dans ce milieu, débarque ce voyou, on pourrait presque dire, ce voyou de Rimbaud. Ça va être une véritable révolution. Révolution puisque Rimbaud et Verlaine vont avoir une relation sexuelle ensemble et fuir pendant 2 ans. Ils vont disparaître en Angleterre, en Belgique, etc. La femme, bien sûr, de Verlaine demandera le divorce. Les parents détesteront, bien sûr, Verlaine d'avoir trahi tout le monde. Mais bon. Et l'affaire va s'achever. Alors, la relation entre Rimbaud et Verlaine, c'est une relation très, très, comment dire ça, très, très excitée. C'est fait à coups d'alcool, sûrement à coups de bringue, à coups de drogue, sûrement. Ils se disputent régulièrement, ils s'insultent, mais ils ont une relation sexuelle exacerbée. En témoignent de très nombreux poèmes qu'ils écrivent d'ailleurs à ce moment-là ensemble, et qui sont des poèmes érotiques, hein, qui ne sont pas dans l'œuvre complète, enfin qui ne sont pas dans l'œuvre classique, qu'on trouve que dans certaines éditions, et qui s'appellent l'album Zutique. Je vous donne simplement un seul titre, c'est « Le sonnet du trou du cul », hein, par exemple. Mais il y en a plein d'autres qui valent de l'or. Voilà. Et donc, ces disputes à répétition vont s'achever le 10 juillet 1873 à Bruxelles, où Verlaine, excité, sûrement ayant bu, a acheté un revolver le matin même, et il va tirer un coup de revolver sur Rimbaud. Maladroit ou sous le coup de l'alcool, il ne blessera Rimbaud qu'à un poignet, mais enfin, il sera arrêté, il sera jugé par la police belge, et il sera enfermé pour 2 ans en prison, dans la prison de Mons. Et donc, leur aventure, qui aura duré 2 ans, s'arrêtera là, s'achèvera là, et on peut dire que la poésie pour Rimbaud également. Rimbaud, après cet événement, rentre à Charleville, et plus exactement dans une propriété à côté de Charleville qui appartient à sa mère, qui s'appelle Roche. Et là, il écrit 2 textes fondamentaux. Le premier, c'est « Les Illuminations », qui est un petit texte qui fait 48 pages. Et surtout, « Une saison à l'enfer », qui fait 53 pages, selon les éditions. Rimbaud, à ce moment-là, a 19 ans, 73. Il a 19 ans, donc on a vu, sa poésie s'est étalée entre 16 et 19 ans. Cette saison à l'enfer, il tente de la faire, enfin, il la porte, non, il ne tente pas de la faire éditer, puisque Rimbaud n'a jamais rien édité de son vivant. Mais il la porte chez un imprimeur en Belgique, et il la fait éditer à compte d'auteur. Quelques mois plus tard, il va rechercher cette édition, mais comme il n'a pas un seul centime sur lui, il ne récupère que les 6 exemplaires qu'on appelle les exemplaires d'auteur, c'est-à-dire qui lui sont donnés, et il laisse les 494 volumes de l'édition originale, il les laisse chez l'imprimeur. Et tous ces exemplaires, c'est-à-dire l'édition originale d'Une saison en enfer, on ne la retrouvera qu'en 1914, soit 40 ans plus tard. Mais, c'est très important de le dire, les Illuminations et Une saison à l'enfer, Rimbaud va les confier à Verlaine. Il les envoie malgré tout à Verlaine, tout comme Verlaine, tout au long de leur relation, Verlaine a recopié les poèmes de Rimbaud. Et où Rimbaud, qui avait recopié ses propres poèmes, les a donnés à Verlaine. Ce qui expliquera que même si Rimbaud arrête d'écrire de la poésie, ses œuvres sont dans les mains de quelques personnes à Paris, comme Verlaine, comme Isambard, comme Paul Demeny, et ce sont ces gens-là qui, plus tard, vont s'occuper de faire connaître l'œuvre de Rimbaud, alors que Rimbaud n'a rien édité de son vivant, sauf peut-être quelques poèmes dans des revues. Voilà. Que fait Rimbaud à ce moment-là? Eh bien, il revient à Charleville et il va abandonner la poésie et disparaître. Voilà. On va avoir la deuxième partie de l'œuvre de Rimbaud, plutôt on pourrait dire de la vie de Rimbaud, qui sera non plus l'aventure du poème, mais le poème de l'aventure où il n'y aura plus de poésie, mais il y aura une vraie vie couverte par une correspondance assidue qui nous permet de le suivre et de savoir donc tout ce qui s'est passé. Je vous dis simplement, pour terminer cette émission, quelques mots de Une saison à l'enfer, quelques petites phrases par-ci par-là. Il écrit « Or, tout dernièrement, m'étant trouvé sur le point de faire le dernier couac, j'ai songé à rechercher la clé du festin ancien où je reprendrai peut-être appétit. » Sur le point de faire le dernier couac. Rimbaud a très bien conscience que dans cette recherche de l'inconnu, dans ce dérèglement de tous les sens, il est allé peut-être trop loin. « J'en ai trop pris, mes chers Satan, je vous en conjure, etc. » Alors, bon, il faut choisir, parce qu'on ne peut pas tout lire, 50 pages. Peut-être le dernier, comment ça s'achève, les Illuminations, et comment s'achève donc, comment s'achève l'œuvre poétique, carrément, de Rimbaud. Aujourd'hui, je crois avoir fini la relation de mon enfer. C'était bien l'enfer. Quand irons-nous, par-delà les grèves et les monts, saluer la naissance du travail nouveau, la sagesse nouvelle, la fuite des tyrans et des démons, la fin de la superstition, adorer Noël sur la terre. Et le dernier texte, puisque ce sont des petits textes qui chacun porte un titre, le dernier texte porte bien son titre, puisqu'il s'intitule « Adieu ». Adieu à cette vie, adieu à la poésie, adieu. Je dis ça. Quelquefois, je vois au ciel des plages sans fin, couvertes de blanches nations en joie. Un grand vaisseau d'or au-dessus de moi agite ses pavillons multicolores sous les brises du matin. J'ai créé toutes les fêtes, tous les triomphes, tous les drames. J'ai essayé d'inventer de nouvelles fleurs, de nouveaux astres, de nouvelles chairs, de nouvelles langues. J'ai cru acquérir des pouvoirs surnaturels. Eh bien, je dois enterrer mon imagination et mes souvenirs. Une belle gloire d'artiste et de conteur emporté. Moi qui me suis dit mage ou ange, dispensé de toute morale, je suis rendu au sol, avec un devoir à chercher et la réalité rugueuse à étreindre. Paysan. Je demanderai pardon pour m'être nourri de mensonges. Cependant, c'est la veille, recevons tous les influx de vigueur et de tendresse réelle, et à l'aurore, armés d'une ardente patience, nous entrerons aux splendides villes. Que parlais-je de main amie ? Un bel avantage, c'est que je puis rire des vieilles amours mensongères et frapper de honte ces couples menteurs. J'ai vu l'enfer là-bas, et il me sera possible de posséder la vérité dans une âme et un corps. Avril-août 1873. La poésie pour Rimbaud, c'est terminé. Voilà, c'était la poésie chiche. Vous pourrez retrouver le podcast de cette émission sur le site d'Esprit Occitanie. Merci de votre fidélité et rendez-vous pour la prochaine émission. À bientôt, chers amis.